en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Voilà, nous commençons notre conversation de ce dimanche matin en remerciant à la fois les fidèles que nous avons vus hier pour cette première journée. Aujourd'hui, nous entamons la seconde, et cette seconde journée, nous la consacrons beaucoup à l'histoire, à la fois ce matin de 1917, l'année 1917, nous sommes dans le centenaire, que nous conclurons cet après-midi même avec Hélène Carrère-Dancos, qui sera la dernière à intervenir, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, sur les Romanov, sujet qu'elle a beaucoup travaillé. Entre-temps, nous parlerons de la Bible, à 14h30 avec le grand rabbin Haïm Korsia, et ensuite de la Ve République avec Alain Duhamel. Donc ce matin, cette session, si je puis dire, est consacrée à l'année 1917 avec mon confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou vient de l'université. Alors ce qui est étonnant, c'est que à peine étiez-vous enseignant universitaire, vous avez commencé par enseigner à l'université de Bonn, c'est-à-dire en Allemagne, avant d'enseigner de nombreuses années à Paris 4 Sorbonne, qui est la grande université française. Mais aussi en ayant de très nombreuses activités qui vont de l'école de guerre à un nombre très important de comités scientifiques, de toutes sortes d'associations, toutes ayant évidemment une influence et une importance politique tout à fait évidente. C'est en particulier l'association Georges Pompidou. Et ça, je me permets de vous en faire de très vifs compliments. C'est une chose que j'ignorais avant de parcourir votre carrière, parce que Georges Pompidou, dans la mémoire de notre génération, compte beaucoup. Et évidemment, donc, membre du conseil de rédaction de nombreuses revues d'histoire diplomatique. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Georges-Henri Soutou est fils de diplomate, Jean-Marie Soutou, et donc a travaillé au fond toute sa vie sur les relations franco-allemandes, votre père ayant été ambassadeur à Bonn avant Berlin, si je veux dire. Donc c'était évidemment la République fédérale. Vous avez commencé par publier un ouvrage qui nous relie à aujourd'hui, à notre question du jour, en publiant « L'or et le sang, les buts de guerre économique de la Première Guerre mondiale ». Et ensuite, vous vous êtes donné beaucoup de mal autour des relations franco-allemandes que vous avez traitées sous différentes formes, et en particulier aussi cette alliance franco-allemande pendant la guerre froide, sujet sur lequel vous venez à nouveau de travailler dans une sorte de synthèse un peu monumentale. Hier, le chancelier Gabriel de Breuil abordait ce qu'avait été cet impardonnable 19e siècle. Eh bien, vous, vous êtes vraiment concentré sur la période de la guerre froide. Alors, nous sommes dans ce salon, dans une conversation de salon. Vous avez le plaisir non pas de découvrir un hôtel avec des collections, des peintures, etc., mais de découvrir un hôtel vivant. Et c'est pour ça que, hier comme aujourd'hui, viennent ici, comme hôtes d'honneur, un certain nombre de confrères académiciens, c'est leur point commun, soit de l'Académie française, soit de l'Académie des sciences morales et politiques, pour traiter d'un sujet qu'ils connaissent bien. Cela dit, c'est évidemment aussi un hôtel que vous connaissez particulièrement bien, cher Georges-Henri, parce que vous avez dirigé, animé pendant des années la fondation Thiers, qui est le cercle de recherche humaniste, qui est la particularité, vous allez peut-être en dire un mot avant que nous ne traitions du sujet, mais la particularité un peu historique de cette maison, c'est de pouvoir accueillir des pensionnaire. C'était son but d'origine. Et vous avez participé donc à l'animation de cette fondation Thiers jusqu'à une période très, très récente, avec Madame Bertrand qui est aujourd'hui parmi nous et que je salue aussi. Et je voudrais évidemment saluer Bernard Bourgeois, notre confrère des sciences morales et politiques, qui, lui, est philosophe. Un petit mot sur la Fondation Thiers, et puis nous revenons sur votre sujet.
Oui, alors la Fondation Thiers, qu'il faut distinguer de la Fondation Dawn Thiers. Vous avez peut-être remarqué le terme Dawn Thiers dans les programmes des invitations. La Fondation Dawn Thiers, c'est l'hôtel Thiers, et bon, quelques éléments. La Fondation Thiers a été créée par la belle-fille de Thiers, fondée à la fin du XIXe siècle, pour permettre de recevoir chaque année un certain nombre de pensionnaires qui étaient défrayés, vivaient pendant jusqu'aux années 1980. Ils vivaient d'ailleurs dans l'hôtel d'origine de la Fondation Thiers, qui était situé à l'actuelle place Adenauer. Ils vivaient sur place. Ils étaient célibataires, n'est-ce pas ? Bon. Et ils vivaient vraiment sur place. Et ils travaillaient essentiellement dans les sciences humaines, même si, à l'origine, la Fondation Thiers abritait également des scientifiques et elle abritait également des juristes. En fait, très pratiquement, ils y préparaient leur thèse de doctorat. Bon, c'était des conditions, bien sûr, tout à fait rêvées. Il y a des annuaires des anciens pensionnaires de la Fondation Thiers qui sont régulièrement mis à jour et accessibles, y compris en ligne, je crois, sur le site. Et il est très intéressant de voir qui est passé par la Fondation Thiers. C'est un almanach de Gotha, si j'ose dire, de l'université française et au-delà, parce que certains ont fait carrière ailleurs par la suite. C'est un très bon complément de l'école normale, si vous voulez. Carrière idéale, c'est école normale, Fondation Thiers, assistant à la Sorbonne, professeur à la Sorbonne, Institut de France. Ça marche à peu près comme ça, quand tout va bien. Voilà.
C'est pas loin du parcours de notre ami.
Bon.
Sauf que
j'ai échoué
pas
deux fois.
J'étais
pas pensionnaire. J'ai été le premier directeur de la Fondation Thiers à ne pas avoir été pensionnaire et avoir échoué deux fois à l'école normale. Je dis ça tout de suite pour rétablir ma crédibilité républicaine.
Voilà. Bon. Alors nous entrons dans cette année 1917, la grande illusion, ça va être un peu plus tard, c'est votre dernier livre que vous signerez dans notre librairie, si je puis dire, notre librairie provisoire. Cette année 1917, Poincaré l'appelait l'année trouble. L'année trouble parce que, au fond, tout est déséquilibré. Et on accumule les mauvaises nouvelles. Il n'y en aura que deux bonnes, si je puis dire. C'est, d'une part, l'entrée des États-Unis en guerre au printemps 1917 et l'élection de Georges Clemenceau, appelé par Raymond Poincaré, à la fin de l'année 1917. Mais en dehors de ça, ce ne sont que des désastres. Alors, cher Georges-Henri, je voudrais que vous fassiez déjà un petit tableau stratégico-politique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous Français, mais l'Europe, au moment où cette année 1917 commence. Et puis ensuite, nous allons en parcourir les étapes.
En 1917, en apparence, la situation n'est pas si mauvaise pour les Alliés. C'est la première illusion de la série des différentes illusions. En effet, l'offensive de la Somme, à partir de juillet, qui s'est prolongée jusqu'à l'automne 1916, n'avait pas apporté les résultats militaires escomptés par les Anglais et les Français, mais les Allemands avaient été extrêmement secoués, on s'en rendait compte. Pour la première fois, l'industrie allemande n'arrivait plus à faire face à la nécessité, disons, de ravitaillement du front en armes et en munitions. Et au début de l'année, ou même à la fin de 1916, il était tout à fait entendu qu'on allait prolonger l'offensive de la Somme par une nouvelle offensive qui sera pour finir l'offensive dite Nivelle, nom du général Nivelle, commandant en chef à ce moment-là, au mois d'avril. Alors, la seule chose, c'est que l'offensive Nivelle, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer maintenant, a été un désastre militaire et a eu des conséquences internationales et nationales sur lesquelles nous reviendrons certainement. Mais au début de l'année, ce n'est pas si désastreux, si vous voulez. Et puis, le gouvernement allemand acquia, à cause de l'échec de la bataille de la Somme, de son point de vue, malgré tout, a décidé, au mois de janvier, de lancer ce qu'on a appelé la guerre sous-marine à outrance. Il y a des règles de droit international. Les sous-marins ne devaient pas, pour résumer les choses, couler des bâtiments civils, avec des passagers en particulier, des êtres humains à bord. Bon. Et jusque-là, la marine allemande s'était à peu près tenue à ces règles de droit international. L'offensive sous-marine à outrance signifie qu'on va couler tous les bâtiments se rapprochant du Royaume-Uni et des côtes des Alliés, selon des paramètres géographiques très, très précis. Tout bâtiment, même neutre, en particulier américain à l'époque, qui entre dans ces zones est susceptible d'être coulé. Et il y aura des bateaux américains coulés, d'où la décision du gouvernement des États-Unis d'entrer en guerre le début avril 1917. Ça, c'est la partie positive. Alors, la partie qui va être tout de suite tout à fait négative, c'est que la Russie de ses tsars, depuis l'offensive qu'elle a menée en juillet 1916, qui a remporté un succès partiel, mais qui a quand même fondamentalement échoué, est de plus en plus ébranlée. Sur le plan militaire, sur le plan de la politique intérieure, sur le plan économique, elle n'arrive plus à soutenir la guerre. Et au début de l'année 1917, il est clair pour tous les observateurs Petrograd ou à Moscou, enfin dans les grandes villes russes, qu'on va vers une crise qui se produira avec la révolution de février. Et du coup, on ne perd pas tout de suite un allié, parce que le gouvernement provisoire issu de la révolution de février à Petrograd n'est pas encore un gouvernement bolchevique, n'est-ce pas ? C'est pas encore Lénine qui n'arrivera que à l'automne, et il affiche la poursuite de la guerre aux côtés des alliés. Mais enfin, on se rend bien compte que malgré tout, la Russie ne sera plus capable d'être d'un grand secours. Voilà. Alors, c'est le début des mauvaises nouvelles qui ensuite vont s'accélérer après l'échec, à partir de l'échec de l'offensive Nivelle au mois d'avril.
Alors, on va peut-être insister sur, d'abord, vous venez de le dire, on ne considère pas que ce qui se passe à Saint-Pétersbourg en février soit de la catastrophe absolue. Mais enfin, les signes sont là tout de même. Et ce sont des signes négatifs. Même si on ne part pas sur la rupture de la guerre, la situation n'est quand même pas bonne. Donc je voudrais que vous reveniez un instant sur ce point. Et puis que l'on détaille un peu les motifs, vous l'avez évoqué, mais les motifs de l'engrenage qui conduit les États-Unis à voter la guerre, puisque c'est un vote du Congrès, mars ou avril 1917.
Avril.
Avril, voilà.
Alors, au départ...
Donc février, puis avril.
Oui, alors il faut rappeler que les États-Unis étaient le grand neutre au début de la guerre. Ils n'étaient pas entrés en guerre, ils n'avaient aucune raison, ils n'avaient aucune alliance, ils avaient toujours suivi une politique selon la doctrine de Monroe du 19e siècle, enfin d'éloignement des affaires européennes. Et président Wilson, président depuis 1913, considère que globalement, aucun des deux camps, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie d'un côté, enfin la puissance centrale, comme on disait, de l'autre, les alliés russes, anglais et français, n'ont vraiment, de façon évidente, le droit international, le droit tout court, de leur côté. Sur le plan de la démocratie, qui était un aspect essentiel de la pensée politique du président Wilson, je rappelle qu'il avait été professeur de droit public et de droit international à Princeton. C'était un universitaire, un juriste, qui développait d'ailleurs les idées qu'on appelle couramment le wilsonisme, sur lequel on reviendra peut-être, depuis déjà des années, avant même de devenir président des États-Unis. Et il considère, c'est un point très important, vous allez comprendre pourquoi je le souligne, que si la France et la Grande-Bretagne étaient incontestablement des démocraties, bon, la Russie impériale ne l'était pas. Absolument
ouais,
pas.
Bien sûr.
Il y avait donc un frein considérable en dehors des questions de droit international à ce que les États-Unis décident d'entrer en guerre du côté de, des Alliés. À partir de la révolution de février à Petrograd, cet obstacle tombe. Parce que la nouvelle Russie est démocratique. Elle n'est pas brillante, mais enfin, elle est démocratique. On prépare des élections, et puis le tsarisme, l'antisémitisme d'État, la brutalité de la police secrète, enfin, tous ces éléments que l'on pourrait encore développer, mais je les résume, tombent. Alors, du coup, il est beaucoup plus facile pour un président américain de conduire son peuple au combat.
Ce président américain, pardon, Jean,
oui.
Il est déjà réélu.
Il est réélu.
Il est réélu.
Oui. Il a été réélu, c'est tous les 4 ans,
voilà.
Il est réélu en novembre 1916, prend ses fonctions au début,
voilà.
Nouveau mandat début 17, et il s'était fait élire sur un slogan, évidemment un peu gênant, juste après, « He kept us out of the war », il nous a maintenus en dehors de la guerre. Alors, il fait campagne sur un programme de neutralité, de pacifisme, et puis quelques mois après, bien, il entre dans une guerre mondiale. Enfin, ceci dit, bon, ça, entre gens bien élevés, c'est pas un problème, bien, mais il y a eu quand même un retournement qui n'a été possible vis-à-vis de l'opinion américaine qu'à cause de la guerre sous-marine à outrance.
C'est ça.
Parce que Wilson pensait depuis la fin 1916, en son fort intérieur, si vous voulez, avec ses conseillers, que les États-Unis devraient entrer en guerre parce qu'une victoire des puissances centrales serait désastreuse. Une victoire des Français et des Alliés, les Anglais, les Français, bon, n'aurait pas conséquence uniquement favorable du point de vue américain, mais une victoire des puissances centrales serait, elle, franchement désastreuse. À partir de ce moment-là, il se fait cette opinion, tout au courant de l'année 1916, c'est une évolution, il faut qu'il puisse convaincre son opinion, à commencer par le Congrès, bien entendu, mais quand même, opinion. Et là,
on ne peut pas oublier qu'il y a une communauté allemande aux États-Unis qui est quand même majeure, enfin anglo-saxon.
Alors, il y a beaucoup de communautés aux États-Unis et elles vont jouer leur rôle à une époque où la population n'est pas encore si soudée qu'elle sera peut-être par la suite. On parle des hyphenated Americans, des Américains trait d'union, germano-américains. Mais il y a aussi les polono-américains, qui eux sont très favorables au pays de l'entente, si vous l'alliez. Et il y a les tchéco-américains, eux aussi très favorables au pays de l'entente. Donc les deux forces qui, à l'intérieur de la vie politique américaine qui ont tendance à s'équilibrer dans un pays très libéral. C'est-à-dire qu'il y a une presse de langue allemande. Aux États-Unis. Il y a des régions entières, c'est encore sensible aujourd'hui d'ailleurs, où en particulier le Midwest, la population est, dans certaines villes, majoritairement d'origine allemande. Il y a en plus des aspects, religieux aussi, n'est-ce pas ? C'est le protestantisme jouait aux États-Unis à l'époque un rôle absolument considérable, et l'Allemagne de l'époque est une puissance protestante. Mais l'Autriche-Hongrie est une puissance catholique et la Russie est une puissance orthodoxe. Bon, donc tout ça est extrêmement compliqué. Et Wilson doit jouer entre ces différentes orientations, ces différentes pressions qui s'exercent sur lui via les parlements des différents États américains, via les gouverneurs des États américains, via les sénateurs, deux sénateurs par État. Le président des États-Unis ne peut pas gouverner contre l'avis de ses sénateurs. Ça marche pas, c'est pas possible. On peut suivre l'évolution de la pensée de Wilson, je terminerai là-dessus, sur ce point, de façon très précise, parce qu'il se soumet à une conférence de presse hebdomadaire. Il est le seul, je ne fais pas allusion à l'actualité,
pas
je parle
tout.
De l'époque uniquement,
enfin,
il est le seul président d'un grand pays, ou de quel pays que ce soit, à se soumettre à une conférence de presse hebdomadaire. Quand les textes ont été publiés dans des volumes, on a ça, n'est-ce pas, on peut suivre, et les journalistes ne lui épargnent rien. Et il est obligé de répondre. Bon, il dit ce qu'il veut bien dire, mais il doit quand même répondre. Donc, on peut suivre son opinion. Et d'autre part, quand la commission des affaires étrangères du Sénat américain pose des questions, on est obligé de lui répondre. On ne peut pas se permettre de ne pas lui répondre. Voilà.
Absolument. C'est ainsi donc qu'il obtient le vote du Congrès, qui naturellement est salué par le président de la République française et le premier ministre britannique. Cela dit, ça n'est pas parce que le vote du Congrès est acquis que instantanément les Américains débarquent en Europe. Tout ça va prendre des mois, et ils ne seront opérationnels que l'année suivante. Oui, donc en 1917, on a une bonne nouvelle politique, mais du point de vue militaire, c'est pas encore là.
Alors vous avez parfaitement raison, l'armée américaine sera à peu près, en petite quantité, à peu près opérationnelle à partir de juillet 1918, tout juste, équipée d'ailleurs de matériel français, ce qu'on ignore, les avions sont français, les canons sont français, les blindés sont français,
Lafayette.
Et ils sont arrivés avec leur équipement individuel, leurs fusils, les États-Unis, c'est tout, mais tout l'équipement est fourni par l'armée française, ils ont été entraînés, formés à la guerre de tranchées de l'époque par des instructeurs français. Alors, dès les offensives du mois de septembre,
18 là.
L'armée américaine va faire la preuve de sa valeur parce que ils ont un matériel humain extraordinaire, comme ils avaient à l'époque, des jeunes gens en train de fit, hein, qui, par exemple, la bataille de Saint-Mihiel en septembre 1918, une division américaine a enfoncé la garde prussienne en 2 heures. On n'enfonçait pas la garde prussienne comme ça, je vous le dis tout de suite, en 2 heures. Tous les officiers alliés en étaient babas. Ça, c'était l'arrivée de la puissance américaine. Ouais. Il a fallu un an. Ouais. Et l'état-major allemand, qui a fait ses calculs, qui le sait très bien, son équation est très simple. Il faut battre les alliés français et britanniques avant l'arrivée des Américains. D'où la guerre sous-marine à outrance.
C'est ça.
Ils espéraient pouvoir...
Pour casser la logistique, casser tout ce qui arrivait.
Mettre l'Angleterre à genoux, l'Angleterre étant une île, comme ça a été parfois rappelé avec justesse d'ailleurs, et si elle ne peut plus recevoir ce ravitaillement, ben c'est fini.
Oui, absolument. Alors, nous voilà donc en avril, nous avons vu la situation déséquilibrée en Russie. Nous voilà donc en avril avec cette bonne nouvelle politique. Et sur le plan militaire, se déclenche le plan qui a été retardé, remanié, revu, hein, qui est celui de Nivelles.
Alors l'offensive Nivelles donc, démarre vers le 20, je crois à peu près, avril 1917. Elle avait des objectifs extrêmement audacieux. On a parfois tendance à penser que les offensives de la guerre de 14 étaient des bains de sang inutiles et que les généraux se faisaient plaisir. Alors, bon, c'est pas ça. Il y avait des objectifs. Bon, il s'agissait de pulvériser le front allemand et de porter la guerre au-delà du Rhin, mettre l'Allemagne à genoux et gagner définitivement. L'objectif, c'était une victoire décisive sur l'Allemagne. Je dis bien décisive. C'était pas une offensive comme ça pour se faire plaisir. Alors, la seule chose, elle a échoué, je dirais dans quelles conditions, dans une seconde, elle a échoué pour deux raisons. D'abord, les Allemands qui se battaient en France, donc avoir plus loin de terrain, au fond, ce qui conteste la stratégie, ont reculé leur front à certains endroits, une centaine de kilomètres, juste avant l'offensive, parce que ça leur permettait de rationaliser leur ligne de défense, qui était un peu en zigzag, et de gagner plusieurs divisions, une vingtaine de divisions en reculant comme ça. Ce qui fait que l'offensive Nivelles est tombée dans le vide, n'est-ce pas ? Et d'autant plus que les Allemands ont veillé à démolir les routes, les voies ferrées, les points d'eau, enfin tout ce qu'on peut démolir dans ce cas-là. Ça a été extrêmement gênant. Deuxième point, pour les raisons techniques militaires dans lesquelles je n'entre pas, dans un mot, c'était des tranchées qui étaient protégées par des fils de fer, des positions de mitrailleuses, des positions d'artillerie, etc. Il n'était absolument pas question d'attaquer bille en tête. C'était un massacre à chaque fois. On avait vu ça depuis le début de la guerre. Donc, il fallait procéder à ce qu'on appelle la préparation du terrain. On bombardait à coups de canon la ligne ennemie à l'endroit où on voulait attaquer. Et là, il y avait deux cas de figure, deux écoles. Ou bien on bombardait pendant des jours et des jours. Les différentes phases de la bataille de la Somme, il y avait une semaine de préparation d'artillerie. Alors, ça avait deux conséquences. D'abord, le terrain était tellement bouleversé qu'on ne pouvait plus avancer après, n'est-ce pas ? Bon. Et d'autre part, ça donnait à l'ennemi du temps pour amener des renforts, prévoir une deuxième ligne derrière. Oui, donc, c'était pas le bon système. L'autre système, c'était de bombarder de façon extrêmement violente. Mais pour ça, il fallait du matériel, qui est arrivé lentement. Mais on pense l'avoir en 17. Bombarder de façon extrêmement violente pendant 2-3 heures. Et puis après, on commence à bombarder selon la saison, 3-4 heures du matin. Puis 2 ou 3 heures, le soleil se lève. Bon, coup de sifflet, on y va. La seule chose, c'est que ce bombardement, lors de l'offensive de Nivelles, a été inefficace. Les réseaux de barbelés étaient en place. Et barbelés, c'est efficace. Hein. C'est grossier, mais efficace. Les nids mitrailleuses, la plupart allemands, étaient en place. C'était un massacre. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on s'est tiré de cette contradiction entre une longue préparation, mais qui permet à l'ennemi de reconstituer une ligne par derrière, et une préparation brève, mais qui est inefficace, mais avec les chars d'assaut, qui ont servi à ça, mais qui n'entreront vraiment en usage massif qu'en 1918.
Voilà.
Alors, Donc, c'est l'échec, et l'échec sanglant, avec une conséquence, c'est que, d'abord, il y a une crise politique, et d'autre part, les soldats en ont assez. Ils avaient supporté ce qu'ils avaient dû subir depuis 1914. À partir de l'offensive Nivelles et de l'échec de l'offensive Nivelles, on parle de mutinerie. Le mot n'est pas tout à fait exact, sauf quelques cas. C'est plutôt la grève sur le tas. C'est-à-dire qu'on prend les soldats qui sont au repos à l'arrière, les hommes maintenant vont remonter en ligne. Les divisions suivaient une rotation, 15 jours en ligne, semaine à l'arrière, enfin bon. Et les soldats refusent de monter dans les trains, les véhicules, les camions qui doivent les conduire au front. Ça, c'est au mois de juin. Un tiers de l'armée française est affecté par ces refus d'obéissance. C'est plus que de la mutinerie, ce sont des refus d'obéissance. C'est une forme de grève sur le tas. Et là, évidemment, tout s'arrête. Les Allemands ne l'ont pas su. S'ils avaient su que l'armée française était en état de grève perlée au mois de juin 1917, ils auraient peut-être essayé d'en profiter. Mais ils n'ont pas su. Ou du moins, ils n'ont pas compris l'ampleur du phénomène. Un tiers des divisions. Alors là, il a fallu changement de commandant en chef, l'arrivée du général Pétain.
Voilà.
Ça aussi, c'est une conséquence de la guerre de l'année 1917, parce que sans 1917, pas de maréchal Pétain après. Hein. Enfin, c'est
oui,
clair,
mais un instant, on s'arrête là-dessus. Nivelles échoue. Donc Nivelles est débarqué.
Il est
limogé. Et il faut le remplacer à la tête des armées françaises. Et on va chercher Pétain, pourquoi ?
On va chercher Pétain parce qu'il avait exprimé ses réserves depuis le début, depuis la préparation de l'offensive Nivelles, à l'égard du plan de l'offensive Nivelles. Il avait d'avoir annoncé que ça ne marcherait pas pour les raisons que je vous ai dites, grosso modo. Et d'autre part, Pétain disait, attention...
Et Pétain, c'est qui ? C'est Verdun.
Pétain, c'est Verdun, oui.
Et oui.
Je reviens une seconde en arrière.
Oui.
Au début de la guerre de 14, Philippe Pétain est un colonel dont la carrière n'a pas très bien marché et qui, normalement, aurait été à la retraite, je crois même, l'année suivante. Bon,
ouais.
Enfin, il est maintenu, c'est la guerre. Et puis, il progresse et surtout, il se distingue lors de l'offensive lors de l'offensive allemande sur Verdun à partir de février 1916. Parce que la première réaction... disons du commandement, ça veut dire bon ben si Verdun est tellement attaqué, ben on évacue. La seule chose c'est que sur le plan politique et sur le plan international, c'eût été un désastre et un argument excellent pour la propagande allemande. Parce que Verdun, c'est Verdun, les trois évêchés. Aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien, mais pour les écoliers de l'époque en France et en Allemagne, Metz, tous les Verdun, c'était les trois évêchés, c'était là où la France avait finalement établi son emprise sur une partie de l'ancien Saint-Empire romain germanique. Et puis, d'autre part, alors ça c'est un point qu'on discute, je maintiens qu'il suffit de regarder une carte, étant donné que les fronts suivent quand même, dans la mesure du possible, des lignes géographiques. Et si vous connaissez un peu la région de Verdun, il faut y aller, c'est extrêmement intéressant. Si vous perdez Verdun, vous n'avez plus, entre Verdun et Paris, de lignes géographiques claires sur les côtes de Meuse. Vous n'avez plus de lignes géographiques claires pour tenir.
Ouais.
Verdun était très mal situé pour le ravitaillement, mais si vous perdez Verdun, les Allemands avanceront encore plus, et du coup, vous perdez une bonne partie des voies ferrées nécessaire à une autre communication. Et là, Pétain avait réussi à sauver la situation, et du coup, il était devenu l'un des chefs que l'on commandait les armées du sens, si je me souviens à ce moment-là, donc le tiers du front. Et puis, début 17, quand on met sur pied l'offensive, il prévient tout de suite le ministre de la ministère de la Défense, de la guerre, hein, ça ne va pas marcher. D'autre part, ajoute Pétain, Nous avons deux facteurs qui vont changer les conditions de la guerre. Primo, l'arrivée des Américains. Et deuxièmement, les nouveaux armements, en particulier les tanks, dont il avait parfaitement compris qu'ils seraient la solution au problème que je vous posais. Et Pétain dit, dès qu'il est nommé, il va suivre une stratégie très prudente, défensive, en expliquant, j'attends les Américains et les chars. Et cette stratégie défensive, c'est la seule que la France puisse se permettre à partir de l'échec de l'offensive Nivelle, parce que l'armée est épuisée, parce que le pays est épuisé. On pourrait également développer l'état du pays, région par région. 1917, c'est le rationnement, les femmes qui cultivent les champs, c'est l'énorme difficulté à assurer le fonctionnement de la société française. On n'avait pas prévu que ça durerait aussi longtemps. C'est pas bon. Donc, il faut tenir dans la défensive en attendant les Américains et les chars. Et c'est ainsi que Pétain a pu regagner la confiance des combattants. Les combattants ont parfaitement compris. Les combattants ne sont pas idiots. Il y a un contrôle postal. Les correspondances des soldats, elles ne sont pas censurées, mais elles sont lues par échantillonnage. Comprenez, on fait des résumés d'opinion pour l'état-major. Les lettres sont transmises. Bon, on prend une journée pour noter les phrases clés. Et on a fait là-dessus des travaux, des thèses. Bon, on voit très bien l'opinion des combattants. Ils ne sont pas idiots. Ils comprennent bien que ça ne marche pas. Et puis, quand on les met à l'arrière pour les rééquiper, leur permettre d'avoir des permissions, d'être mieux nourris, pardonnez-moi, mais ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de faire un service militaire savent que ça compte, tout ça. Bon, eh bien, du coup, ils regagnent la confiance des combattants et qui seront de nouveau moralement prêts en 1918, quand il faudra résister aux grandes offensives allemandes du printemps 18 et ensuite reprendre l'offensive. Voilà.
Absolument. Et donc, c'est ça, on a le moral des forces armées, on a le moral des Français, c'est-à-dire le moral de l'arrière, puis on est quand même aussi au cœur d'une crise politique.
Alors, le moral de l'arrière...
Oui. Peut-être que... Il y a un point, parce qu'on a tendance, sans regarder les choses de près, à mêler la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande avec ce qui s'est passé en 14-18. La situation n'a rien à voir, mais de temps en temps, on mélange un peu les choses. Je le dis parce que je lisais il n'y a pas très longtemps un papier dans lequel on me parlait de la résistance de la Bretagne contre l'occupant allemand en 1917-18. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a pas d'occupation allemande en France pendant la guerre de 14-18, sauf sur le front.
Enfin, les régions.
Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on est fait tuer tant de monde... alors que le front, il est au nord et à l'est, et c'est à peu près tout. Mais c'est là que tout se déroule, c'est-à-dire que toutes nos forces, du point de vue arrière, du point de vue moral, du point de vue politique, sont tendues exclusivement sur ce front, où l'on masse du monde en quantité incroyable. Et ça, pour le moral de l'arrière, ça, évidemment, ça pèse énormément, surtout quand le gouvernement saute de manière régulière, comme sous la Troisième République, en période de guerre comme en période de paix.
Alors, l'année 1917 voit une accélération de ces changements de gouvernement. On avait commencé la guerre avec un gouvernement Viviani qui n'était pas vraiment prêt à assumer une telle responsabilité. Il est remplacé, Viviani, comme président du Conseil en octobre 1915 par Aristide Briand. Qui va donner à la guerre alors une impulsion extraordinaire. On a un peu le souvenir du Briand des années 20, vous savez, le vétéran de la peste. Briand a fait la guerre de 14 avec la plus grande fermeté et, dans certains cas, la plus grande brutalité. Il a complètement réorganisé le pays, réorganisé les rapports au gouvernement et le commandement, réorganisé l'industrie et l'économie française, je pourrais multiplier les exemples, enfin bon, et il a préparé le pays à une guerre longue. Qui serait long, parce qu'on admet enfin que la guerre va être longue. Bon, la seule chose, c'est que Briand finit par subir l'effet des difficultés militaires, d'une usure, il est l'objet d'une double attaque, en fait, même si ce n'est pas public. On trouve dans la partie entre guillemets, plus à gauche du Parlement, qu'il était trop dur. Je résume. Hein. Et oui. En revanche, certains milieux proches du président Poincaré, en particulier, peut-être plus nationaliste, trouvent qu'il est trop réservé pour les buts de guerre. Parce que la France, enfin, le gouvernement français définit des buts de guerre à partir de l'été 1916. Et Briand trouve qu'ils sont excessifs. Et il les freine, discrètement, il les freine. D'autre part, il entame très discrètement, par des liens évidemment confidentiels, un dialogue avec Berlin au début de l'année 1917 pour essayer de voir à quelles conditions on pourrait sortir de cette situation épouvantable. Et tout cela fait que le Parlement le renverse en mars 1917. Et là, on a une succession de présidents du Conseil. On a d'abord Alexandre Ribot, de mars à septembre, qui est un homme politique de la Troisième République extrêmement honorable, une magnifique barbe blanche, enfin, c'est très à la mode aujourd'hui, longue barbe. Ah, bon. Mais il n'est quand même pas tout à fait fait. C'est un financier, c'est un très grand ministre des Finances, si vous voulez, mais il n'est pas fait pour mener une guerre mondiale. Bon. Il est remplacé septembre 1917 par son ministre de la guerre, qui est Paul Painlevé. Paul Painlevé, qui a été par la suite président du Conseil dans l'entre-deux-guerres, qui aurait pu être président de la République. On a parlé de lui pour être président de la République dans les années 20. Paul Painlevé est un des hommes peut-être les moins connus aujourd'hui de cette période, mais loin d'être le moins intéressant. Il est tout à fait passionnant. C'est un scientifique. Il faut savoir, c'est un scientifique. C'est vraiment un grand, grand savant. Et il avait d'ailleurs contribué, quand il était président du Conseil, à lancer des programmes de recherche en matière d'armement et de munitions, etc., qui ont été très largement soutenus, exécutés, poursuivis par nos confrères de l'Académie des sciences. Hein, c'est ça. Il y a un livre qui est sorti sur son rôle pendant la guerre de 14. Et Painlevé a une vision moderne de la guerre. Il a, d'autre part, il s'entend bien avec Pétain, qui partage un peu les mêmes options. Et Painlevé pense qu'il faut absolument, pour sortir de la situation qu'on a décrite, où on est à l'été 1917, chercher à négocier avec Vienne, tandis voilà, que Vienne est plus faible, oui, n'est-ce pas, l'Autriche-Hongrie est plus faible que l'Allemagne, pour essayer de dissocier les puissances centrales.
Et ça, c'est l'été 1917.
Ça, c'est tout l'été 1917.
Voilà, toutes alors, les négociations.
Il y a déjà au printemps.
Et l'affaire du manifeste de Stockholm, c'est quand ça?
Alors ça, c'est l'année, c'est même 1915. Hein, c'est une affaire qui revient régulièrement.
Ah oui,
ce sont des rencontres internationales entre partis socialistes. Oui. Alors le gouvernement français n'accepte pas d'accorder les passeports, parce qu'il fallait des passeports pour pouvoir quitter le territoire. Je vous rappelle qu'en 1914, le seul pays qui exigeait un passeport pour entrer ou sortir, c'était la Russie. Sans ça, vous vous promeniez librement, éventuellement, enfin, vous décliniez votre identité. Enfin, il suffisait d'une carte de visite. Enfin, bon. Mais évidemment, avec la guerre de 14, on introduit le système des passeports. Mais il y a malgré tout des contacts entre les différents partis socialistes et qui, à partir de 1915, ils se mettent pas d'accord, en fait. Ils ne se mettront pas d'accord, mais ils essaient quand même d'envisager sur quelle base on pourrait sortir du conflit. Je me permets de vous rappeler qu'il existait, avant 14, une internationale socialiste qui avait tout un programme, avant 14, lors de ses congrès, mis au point lors de ses congrès, pour empêcher une guerre européenne. Le programme était extrêmement simple. Si une guerre européenne éclatait, les prolétariats de tous les pays impliqués dans la guerre se mettraient en grève. Enfin, se lutteraient contre la guerre qui s'arrêterait automatiquement. Alors, en 1914, ça n'a pas marché parce que les socialistes allemands ont soutenu le gouvernement allemand, les socialistes français ont soutenu le gouvernement français, etc. C'est brisé. Mais on essaie quand même de renouer cela. Et ça a une conséquence parce que le Parti socialiste français, avec ses congrès internationaux, même s'il n'y participe pas directement, avec, c'est un rôle très important de la révolution de février à Petrograd, parce que le gouvernement russe provisoire va publier les correspondances diplomatiques secrètes entre Paris et Petrograd. Et là, les députés et l'opinion publique vont comprendre les députés et l'opinion publique, malgré la censure qui contrôle les publications dans la presse, vont comprendre que le gouvernement français n'avait pas uniquement comme objectif de rétablir le territoire national, enfin de chasser l'envahisseur, mais il avait des buts qui allaient bien au-delà, qui sont formulés dans les milieux gouvernementaux et administratifs à partir, très sérieusement à partir de 1916, qui sont soutenus par des secteurs entiers des activités économiques, pas toutes, loin de là, mais certains, par certains secteurs de l'opinion. Il y a des campagnes de presse, certains de nos confrères à l'époque, d'ailleurs, bon, écrivent des articles, Maurice Barrès écrit des tas de choses, bon, mais il n'est pas le seul, loin de là. Prenez, par exemple, des revues qu'on trouve aujourd'hui encore dans des bibliothèques, comme l'Illustration, c'est j'allais dire le Paris Match de l'époque, enfin, j'exagère un peu, mais c'est un hebdomadaire qui plein d'informations, c'est extrêmement intéressant, et on voit bien se dessiner un programme de but de guerre qui tourne, bon, en un mot, essentiellement le contrôle du Rhin, c'est-à-dire ramener la France à la frontière de la Révolution française et de l'Empire, c'est-à-dire sur le Rhin, pour assurer sa sécurité et pour contrôler l'Allemagne. Si en plus on arrivait à faire éclater l'unité de l'Empire allemand, qui après tout, toute récente, elle date de 1871, nous, on a l'impression, même pas vrai d'ailleurs, parce qu'on a connu deux Allemagnes, mais en gros, on a l'impression qu'il y a une Allemagne depuis toujours. Oui. Pour les contemporains, il y avait jusqu'à 1871 des cours allemands, toute une série de pays nombreux. Bon, mais l'unité, c'était récent. On était dans l'illusion, on pourrait la remettre en cause. Alors, tout ça, c'est publié avec la correspondance diplomatique franco-russe. C'est publié. Et les députés socialistes, certains d'entre eux, la moitié à peu près, disent, même petite majorité de la moitié, 52%, disent « Ah non, on ne fait pas la guerre pour ça ». À partir de ce moment-là, le Parti socialiste se divise. Certains continuent à soutenir ce qu'on appelait depuis 1914 l'Union sacrée.
Oui.
Donc tous les partis soutenant le gouvernement et l'armée pour la victoire. Et à partir de ce moment-là, Parlement est très divisé. Au mois de juin se tient ce qu'on appelait un comité secret. C'est-à-dire que pas de public dans les tribunes, pas de journalistes et pas de publication de l'analytique, du résumé des débats. Enfin, non, c'est pas le résumé, c'est le compte-rendu des débats qui sera publié que bien plus tard.
Absolument.
Donc, on peut le lire, mais il n'a été publié que bien plus tard. Alors, c'est tout à fait passionnant. C'est la seule fois où au Parlement, à la Chambre, on a discuté des buts de guerre. Et les gens s'étripent. Vous avez des gens qui disent « on ne sera jamais assez dur parce que les Allemands ont cassé les pieds », enfin je résume. D'autres qui disent « mais jamais vous n'arriverez à rétablir la paix en Europe avec des objectifs pareils, tant plus qu'ils dépassent nos moyens, c'est évident, on n'y arrive pas ». Et d'autres qui disent « il faut trouver quelque chose, c'est très important, qui tienne compte que nous ne sommes plus en 1916, maintenant il y a Wilson ». Alors Wilson, c'est le droit international, Wilson, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il n'a pas encore proclamé ces fameux 14 points, ça c'est janvier 18, mais sa philosophie, elle est connue, elle est publique, elle est connue depuis avant-guerre. C'est en gros le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et, disons, la démocratie comme norme internationale progressive. Bon. Et surtout, pas d'annexion contre la volonté des populations, etc. Et la seule chose que l'on peut retenir du point de vue français du programme wilsonien, ce sont des garanties internationales. C'est une société des nations qui aura les moyens éventuellement de désigner un État agresseur, de le condamner et de faire prendre des mesures de défense contre ou de rétablissement de la situation après une agression. C'est ce qu'on appelle la sécurité collective, à laquelle toute une série de juristes et d'hommes politiques français pensaient de leur côté depuis la fin du XIXe siècle, depuis les conférences de la paix qui s'étaient tenues à La Haye en 1897 et 1907, si je ne me trompe pas de date, dans lesquelles on avait commencé à poser les bases du droit international moderne, avec en particulier la Cour internationale de La Haye, qui est une création de l'époque, dans l'idée que si deux pays avaient une contestation, il fallait, avant de recourir aux armes, qu'ils la soumettent à un tribunal international arbitral. Bon, alors, ça, évidemment, ce n'est que le début. Mais vous avez des hommes politiques influents chez des socialistes, dans des milieux, disons, du Parti radical, qui était le parti, disons, dominant de la Troisième République, et également chez certains de nos confrères, n'est-ce pas? Nous avons des académiciens, beaucoup de juristes, ou d'hommes politiques expérimentés, qui, dès la guerre de 14, veulent commencer à expérimenter toutes ces formules. Alors, plus ou moins convaincus, si vous voulez, mais il y a un argument qui emporte tout chez certains en 1917, la notion de garantie. On va parler de garantie, garantie pour la paix, la sécurité. La notion de garantie peut être acceptée par la population. La notion d'annexion, c'est fini. Si on parle d'annexer la Rhénanie, les Français ne suivront pas. Et les Américains seront furieux. Si on parle de garantie, garantie sur le Rhin, garantie en Rhénanie, pour s'assurer que l'Allemagne ne pourrait pas de nouveau un jour attaquer, alors les garanties, c'est une garantie internationale, ça peut être une occupation militaire, enfin il y a 36 moyens. Mais le mot garantie, c'est le mot qui sauve tout. Parce qu'il recouvre beaucoup de possibilités qui permettent aux plus méfiants, plus nationalistes, de dire oui, on va quand même contrôler les choses, hein, titre de garantie, et aux plus, disons, progressistes, les plus intéressés par ces nouvelles idées, les plus soucieux d'être en harmonie avec Washington, permet également de sauver la situation. À partir de ce moment-là, le mot garantie joue un rôle absolument essentiel. Il faut tenir compte de l'allié américain. Et c'est comme ça que on va finir par voter, à l'issue de ce comité secret du mois de juin, une résolution qui est convenable pour tout le monde, une sorte de assez large majorité se réunit. Simplement, Painlevé va être la victime, indépendant de sa politique, mais je ne peux pas trop développer, il va être victime de ce qu'on a appelé les affaires de trahison. Car, bien entendu, on est en guerre. Et bien entendu, l'état-major allemand, le gouvernement allemand, les services secrets allemands qui existent, sont efficaces, travaillent au corps l'opinion française. Alors on découvre, ça commence très simplement, c'est une somme énorme, oubliée par un député dans son casier au Palais Bourbon. En liquide, hein. On commence à ouvrir une enquête, puis on découvre qu'il a reçu ça pour acheter un journal qui cueille de fil en aiguille. Ah oui, eh ben oui, mais non, oui. Mais c'est pas bien d'acheter un journal. Oui. Ça n'arrive jamais, d'ailleurs. Non. C'est un cas unique dans l'histoire, vous êtes
absolument,
bien d'accord. Unique, absolument unique.
Ah ben, c'est évidemment, en temps de guerre, c'est un peu plus...
C'est plus fâcheux en temps de guerre qu'en temps de paix.
Un peu plus fâcheux.
Je note attentivement. Mais enfin oui, bon, oui. Mais... Je vous taquine. Mais alors, de fil en aiguille, on va découvrir. On a exagéré à l'époque. Il y a eu des campagnes. Ça a été une atmosphère en septembre, octobre, novembre. C'est une atmosphère fuligineuse. Il suffit de lire les mémoires de Poincaré. C'est pour ça qu'il parle de l'année trouble. L'année trouble, c'est ça. C'est des affaires judiciaires. On ouvre des instructions judiciaires. On découvre. Il y a des traîtres avérés. Il y a des gens qui ont eu des contacts imprudents. C'est le cas de Joseph Caillaux, qui est un des grands hommes politiques de l'époque, qui était président du Conseil avant la guerre, qui voulait qu'on arrive à la paix. Mais raisonnablement, il était dans le domaine des garanties, lui, pas du tout un défaitiste, contrairement à ce qu'on a dit. Mais simplement, il a été imprudent. Il y a eu des contacts un peu avec tout le monde. Et là-dedans, il y a des contacts suspects. Alors, les services secrets ont remonté la police, tout ça a remonté la filière. Bon. Et puis, dans cette situation... qui vient se surimposer sur la crise dites des mutineries, la baisse du moral que l'on constate un peu partout. Il y a des grèves, les gens n'en peuvent plus dans leur village, ils n'arrivent plus à vivre correctement. Bon, il y a une très mauvaise atmosphère. Ces affaires de trahison, on est trahi en plus. C'est terrible, en temps de guerre, on est trahi. Bon. Et on a l'impression que l'Allemagne est omniprésente. Ça conduit à une nouvelle crise politique. Et là, en novembre 1917, c'est très simple. Ou bien la France basculait, comme un peu la Russie l'a fait, finalement, du côté de défaitisme, essayant de conclure la paix à tout prix, tout de suite, en abandonnant ses alliés, ou bien on reprenait le contrôle de la situation. Poincaré appelle au gouvernement, président de la République, c'est lui qui appelle à former un gouvernement, tel homme politique qui vient président du Conseil, mais c'est à la demande du président de la République, il a le choix, hein. C'est ton pouvoir essentiel, d'ailleurs, le choix. Poincaré, qui ne pouvait pas sentir Clémenceau,
absolument,
et réciproquement, est obligé d'appeler Clémenceau, parce qu'il sait qu'avec Clémenceau, ben, les choses vont être reprises en main. Clémenceau avait été président du Conseil avant la guerre et ministre de l'Intérieur en même temps, parce que les deux, on était président du Conseil et ministre de quelque chose à l'époque toujours, et un ministre de l'Intérieur à poigne. Clémenceau était un homme à poigne. Il menait campagne d'ailleurs depuis le début de la guerre. Son journal L'Homme Libre avait été censuré. Il avait immédiatement rebaptisé L'Homme Enchaîné, n'est-ce pas ? Bon, mais campagne, bon, connaissait tout le monde. En plus, point important, il avait vécu en Amérique, il savait l'anglais.
Oui.
Il savait l'anglais, c'est-à-dire qu'avec l'anglais, Lloyd George, premier ministre, et Wilson, ils se sont bien compris, ils savaient l'anglais, à l'époque c'était rare. Il avait même épousé une Américaine. Ça n'avait pas été un succès. Les dames, Clémenceau, c'est encore un autre domaine. Bon, bien. Mais Clémenceau va reprendre les choses en main, en sortant des ambiguïtés et en disant mon programme, c'est la guerre, je fais la guerre. Je fais pas autre chose, je fais la guerre. La malheureuse Roumanie est écrasée, je fais la guerre. La Russie sort du conflit, je fais la guerre. Notre front est en grande difficulté, je fais la guerre. Pas autre chose, la guerre. Bon. Et il va faire mettre au trou et fusiller toute une série de ces personnages, disons, soit douteux, soit à la culpabilité avérée. Et faire mettre en prison Joseph Caillaux, hein, c'est quand même l'ancien président du Parti radical, Joseph Caillaux.
Et président du Conseil.
Et président du Conseil avant la guerre, homme politique tout à fait. Caillaux aura un procès d'ailleurs en 1920, mais il sera en prison, bon, en attendant. Et il réorganise complètement le gouvernement. Il surveille les militaires d'extrêmement près, ce qui fait qu'il va y avoir une relation politico-militaire extrêmement étroite entre les chefs militaires et le président du Conseil. Son cabinet est au ministère de la Défense, au ministère de la Guerre. Hein, Clémenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre en même temps. L'essentiel de son cabinet, c'est le ministère de la Guerre. Avec un général Mordac qui a publié ses mémoires après la guerre, qui est son directeur de cabinet. Mmh. Mordac qui avait déjà une carrière derrière lui importante, un homme à poigne. Tout ça va être absolument repris en main très vigoureusement. Et puis il y aura l'arrivée progressive des Américains, etc. Mais là on sort de la... Là, c'est plus l'année trouble, hein, c'est à partir de là, c'est l'année claire. Hein,
voilà, c'est ça qui est passionnant avec cette année 1917, c'est que c'est une année quand même épouvantable, mais à la fin de l'année, d'une certaine manière, nous en avons fait le tour, comme vous l'avez compris, donc avec crise politique française, crise morale dans les armées, échec d'une très grande offensive prévue précisément pour basculer les Allemands, révolution en Russie qui est l'allié de l'autre côté de l'Allemagne et qui pouvait justement permettre de coincer complètement les empires centraux. Tout ça était parti dans des directions extrêmement négatives. L'été 1917, où on tente des négociations qui n'aboutissent pas, y compris Benoît XV, et tout ça débouche finalement sur une fin d'année 1917 où tous les facteurs décisifs de la mai 1918 sont réunis, c'est-à-dire l'entrée en guerre des Américains, c'est-à-dire la consolidation du moral des Alliés, le fait qu'à Paris nous ayons un président du Conseil, Clémenceau, qui est lui, comme vous venez de le dire, l'énergie même, tout en ayant quand même 76 ans, non ?
Oui, pas loin.
La question.
Nous sommes des bons exemples, l'énergie, oui, pas un problème. Hein,
oui. Bon. Ben, tiers en 1871.
Ben oui, je dirais même que quand ça va mal, il faut penser.
Bon, d'accord. Bref, cette année 1917 se conclut, en effet, avec tous les facteurs qui vont devenir positifs pour l'année 1918. Est-ce que, alors, évidemment, 1918, oui, mais il y aura aussi les suites de la révolution bolchevique, elle, d'octobre 1917, qui ne va encaisser...
Ça va permettre aux Allemands de rameuter 1 million de soldats du front Est vers le front Ouest et de déclencher de terribles offensives à partir de mars 1918, et bon, ce sera encore tout un récit pour expliquer comment on a tenu, mais je peux vous dire, ça a été extrêmement juste. J'ai une théorie. c'est que les Allemands, l'armée allemande était mal nourrie, hein, c'était pas parfait à cause du blocus de l'Allemagne, etc. Quand les Allemands ont découvert les stocks de boîtes de conserve de l'armée britannique dans dans le reste de la France, ils sont carrément arrêtés. Les officiers ne les tenaient plus, ils se sont précipités pour manger, vous comprenez. C'est une théorie un peu...
Enfin, pas totalement fausse.
Alors, je voudrais juste revenir sur un point pour le 1917. Bon, les gouvernements, le Parlement, ça c'est très bien, mais l'opinion publique. Alors, on a deux moyens de mesurer le fait que cette politique, disons, de durcissement de Clémenceau a trouvé un écho généralement favorable. Pas unanimement, loin de là, non, certainement pas, mais généralement favorable. D'une part, le contrôle de la correspondance des soldats, qui montre bien que les gens disent, oui, bon, enfin, ça, c'est, il faut mettre un terme à cette espèce de désordre qui s'installait partout. Et d'autre part, nous procédons maintenant des études régionales de la France en guerre au niveau local. Et je participe à ce qui se fait en Savoie depuis le début des anniversaires, et on voit très bien en 1917 la volonté de se reprendre, d'accepter le fait que c'est plus long que prévu et plus dur que prévu, mais on s'organise, et l'organisation au niveau local est absolument étonnante. On a trouvé des masses d'archives pour les sociétés de secours aux blessés, les sociétés de secours aux familles dans le besoin, parce que le père est parti au front, l'organisation des hôpitaux militaires, l'organisation industrielle, toutes les petites usines de Savoie, une masse de petites usines, c'est encore, ils sont encore joués, on pratiquait ce qu'on appelle le décolletage.
Ah oui.
C'est une spécialité industrielle qui est tout à fait importante. Oui. Eh bien, on les met à la fabrication de buts. Parce qu'ils ont des masses de buts. Alors, les grands groupes chirurgiques français envoient ces masses de petites entreprises, centaines de personnes, vous voyez. Ils envoient les bleus, c'est-à-dire les plans très exacts, les gabarits, ce qui permet de coincer les tours, une pièce métallique pour coincer les tours à la bonne... Parce qu'il ne faut pas se tromper dans les dimensions des buts, des obus. Hein. Et à partir de là, les gens s'y sont mis. C'est un effort absolument prodigieux. Dans une atmosphère générale, je dirais, de débrouillardise, on met de côté les règlements habituels et on fait fonctionner les choses. Et c'est très intéressant, c'est au niveau local, familial, municipal, local, familial, quasiment individuel. Tout le monde s'y met et il y a un regain d'activité à partir de l'automne 17 pour le dernier coup de collier. Voilà, ça c'est très net.
Cette année 1917, par comparaison aux précédentes et même à la suivante, 18, du point de vue des pertes en hommes, qu'est-ce qu'elle représente?
Est-ce que... Alors, le début de la guerre est épouvantable, parce que...
C'est-à-dire en 14-15.
Ouais. Non, même 14-14.
Ouais.
Je crois que c'est le 22 août.
Ah, le 22 août, 22 000 tués.
22 000 tués un seul
en un jour.
C'est ça, c'est absolument... Il n'y a plus jamais eu l'équivalent en une seule journée. 22 000 tués, sans parler des blessés, c'est à peine concevable. Les premiers mois jusqu'à la victoire de la Marne, ça, 300 000 tués, hein, ça a été énorme. Après ça, il y a eu évidemment Verdun. Mmh. Verdun a causé pas loin de 100 000 pertes du côté français,
à peu près autant
du côté allemand d'ailleurs. Bon, et c'est le deuxième pic. La bataille de la Somme, ça a été lourd, mais encore plus pour les Britanniques. Parce que comme les Français étaient en charge de Verdun, leur participation à la bataille de la Somme a été moins importante que pour les Britanniques. Mais les Britanniques, encore aujourd'hui, la bataille de la Somme de 1916, pour eux, c'est un souvenir national, ainsi que pour les pays du Commonwealth canadien, Australie, Nouvelle-Zélande. Aller dans le nord de la France voir les grands cimetières militaires, je dirais, de l'Empire britannique. Enfin bon, c'est le Thiéval, c'est simplement impressionnant. Ça vaut la peine d'être vu, très très bien organisé sur les sites. Et là, j'ai participé à un Staff Ride de l'armée britannique en septembre 2014, un anniversaire de ces batailles. et c'est l'école d'état-major britannique qui s'appelle St. Fried. Il y a une grande cérémonie tivale avec messe, enfin, anglicane, cérémonie anglicane, etc. Les gens qui étaient là en avaient encore les larmes aux yeux, n'est-ce pas ? Parce que les familles, on essaye pour la première fois depuis les guerres contre l'Empire français, la Révolution et l'Empire, les familles britanniques ont laissé une masse de gens dans ces batailles de la sorte. Et puis, évidemment, l'offensive Nivelle, qui a été aussi très sanglante. À partir de là, disons que les pertes deviennent, bon, elles sont toujours là, mais plus au même rythme. Même en 1918, on a, pire moment de 1918, on n'a plus retrouvé ce taux de pertes par jour, c'est-à-dire c'est des choses.
Nous allons profiter de ces dernières minutes pour quelques questions qui viendraient à l'esprit de vous-même, de l'un d'entre vous, auxquelles nous n'aurions pas répondu avec Georges-Henri Soutou. Donc, vous n'hésitez pas. Oui, madame. Pierre, donc notre ami Pierre Charot.
Voilà. Je voudrais juste mieux comprendre au sujet du moral des troupes et de leur refus d'obéissance, oui. Comment elles ont réussi à revenir.
Comment ont réussi à suivre le moral
oui,
des troupes
oui, oui. À surmonter cette, ce pardon, refus oui, d'obéissance. Est-ce que c'est Pétain simplement ou... oui.
Alors, je peux vous répondre assez simplement. Il y a eu des mesures prises au sein de l'armée. Par Pétain quand elle a pris le commandement début juin 2017. Bon, d'abord, il faut savoir que quelque chose n'avait jamais été correctement organisé, parce qu'on n'avait pas pensé que la guerre serait aussi longue. C'était les permissions des soldats. La possibilité, vous aviez des célibataires, enfin, même les célibataires peuvent vouloir avoir envie de se détendre un peu, mais vous aviez des pères de famille dont l'épouse continuait à travailler la terre ou tenait l'atelier, enfin, son cas, ou vivait, disons, difficilement, très difficilement, puis enfin, la séparation. Donc, Pétain a dit, il y aura un tour de permission régulier, ça va devenir un droit. Alors, c'était pas aussi simple que ça, parce qu'il fallait organiser le transport des permissionnaires, il fallait organiser la rotation des permissionnaires, parce que l'armée devait quand même tenir la ligne pendant ce temps. On ne pouvait pas mettre tout le monde en permission au même moment. Ça a été organisé, ça a été bien organisé. On a assuré le transport des permissionnaires de façon rapide pour qu'ils ne passent pas tout leur petit nombre de jours de permission en transport. Et si vous avez un permissionnaire qui vient de la région de Bordeaux, il ne faut pas qu'il mette 3 jours pour rejoindre sa famille à partir du front. Hein. Donc tout ça a été accéléré, mis au point, en liaison avec les chemins de fer qui font un travail. Deuxième point, la nourriture. Bon. Jusque-là... était, disons, qualité médiocre, parfois extrêmement médiocre. Ça a été amélioré. Troisième point, c'est un ensemble. Hein. Donc, troisième point, le front était complètement réorganisé. Avant, on mettait les troupes en première ligne, en paquet, dans les tranchées, dans des conditions absolument innommables, que je ne décrirais même pas, parce que c'est contraire à la bienséance. Là, les tranchées sont tenus par le moins d'hommes possible. C'est pas la peine de mettre tout le monde en tranchée, on voit bien venir une offensive. Il suffit que les renforts soient pas trop loin derrière et ils viennent renforcer la ligne. Et à une distance du front suffisante pour que les gens puissent dormir, parce que le tir constant de l'artillerie, les bruits du front empêchaient les gens de se reposer. À une distance suffisante du front, on a établi des emplacements où les soldats pouvaient, tout en continuant à être en alerte, en manœuvrant, en s'exerçant, en apprenant, ils pouvaient dormir normalement, se nourrir normalement, procéder à un minimum de soins d'hygiène. Hein. Bon. Et on a complètement réorganisé le front. Le front, matériellement, n'a plus rien à voir en fin 17 ou en 18 par rapport à ce qu'il était en 1915, par exemple. Voilà. D'autre part, il y a un phénomène général, puisqu'il y a quand même des liens. La presse est distribuée, la correspondance passe dans les deux sens. Je parlais des lettres des combattants, mais il y a également les lettres de leur famille qui viennent les trouver. Oui. Et malgré tout, les combattants vont en permission maintenant. Donc, il n'y a pas de coupure absolue entre le moral de l'armée et le moral du reste du pays. Donc les phénomènes qui ont été décrits au niveau national se retrouvent également peu ou prou au niveau local. Et puis, dernier point, pour répondre bien à votre question, les offensives non insuffisamment préparées et pas évidemment utiles, c'est terminé. L'armée française repassera à l'offensive qu'en juillet 1918. Ce sera une contre-offensive à ce moment-là, mais là, avec une supériorité de force sur l'armée allemande telle que les pertes sont beaucoup plus légères du côté français. Voilà, je pense que ça répond à votre question.
Oui, tout à fait. Une autre question. Oui, il y en a deux.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi l'arrivée de l'aviation? Est-ce que l'aviation n'a pas fait tout basculer? Est-ce que c'est en 17 a complètement renversé le rapport de force?
Alors, c'est un ensemble. L'aviation a joué un rôle d'abord dans l'observation, dans la mesure où on pouvait survoler l'ennemi, pas très facilement, s'il se défendait l'ennemi en question, mais on pouvait survoler. Par exemple, sans l'aviation, on peut penser que la victoire de la Marne n'aurait pas été ce qu'elle a été, parce que ce sont des avions de l'armée française qui ont découvert que les armées allemandes avaient laissé se former entre elles un trou. C'est une mauvaise manœuvre, enfin 50 km de trous dans lesquels l'armée française a pu s'engager pour contre-attaquer et prendre de flanc les offensives allemandes les plus gênantes. Alors, ce rôle d'observation a été essentiel. Rôle pour le réglage de l'artillerie, parce que l'artillerie, on n'a pas les moyens que l'on a aujourd'hui pour suivre les trajectoires des obus, etc. Il faut observer les points de chute. Il faut commencer par repérer les objectifs qui sont camouflés, donc l'avion les voit mieux que les gens à terre. Il faut ensuite suivre pour le réglage de l'artillerie les points de chute. C'est pas si facile que ça, et on y arrive. Alors, l'engagement de l'aviation dans le combat au sol, par bombardement des gares, des dépôts, ça a commencé assez tôt. Faut bien voir que les avions au début de la guerre sont encore des machines très sportives et très fragiles. Progressivement, on a mis au point des appareils plus puissants pouvant emporter quelques projectiles et on a commencé à bombarder des dépôts, bon, des gares, avec des effets qui n'ont rien à voir avec ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Je m'en presse de le nez. Et alors, en 1918, là, les avions ont vraiment participé à l'offensive au plus près des troupes en mitraillant les tranchées ennemies. Alors, vous êtes en pleine offensive. On ne peut pas se terrer dans les abris, il faut sortir dans les tranchées, tirer, éventuellement manœuvrer. Et là, les avions alliés, qui étaient plus nombreux à ce moment-là, parce que l'aviation allemande a été dominante pendant des périodes entières de la guerre de 14, elle était plus nombreuse, plus puissante que l'aviation alliée. Mais 1918, ça se renverse. Et là, on voit apparaître, de façon encore un peu... on est au début, hein, bah, bon, on voit apparaître, je dirais, le trinôme, le camion, je cite le camion, on a tendance à oublier, parce qu'il permet de transporter des troupes rapidement. Vous avez des exemples, en mars 18, il y a un trou de 50 km à un moment donné entre les forces françaises et les forces britanniques, les Allemands ont réussi à percer, et on envoie des régiments français en camion qui arrivent, et on leur dit, vous descendez, vous mettez là, vous tirez. Là, il y a un talus, vous mettez derrière, vous tirez. L'ennemi, là, hein, bon. Ils arrivent en camion, ils descendent du camion, ils tirent 50 mètres plus loin. Alors, ça, c'est possible avec le camion. Deuxième facteur, une sorte de trilogie, c'est bien sûr le char dont nous avons parlé, et troisième facteur, l'avion. Alors, il faudrait que ce soit un spécialiste des aspects les plus techniques de la guerre de 14 qui vous répondent sur l'efficacité relative de ces trois facteurs. Moi, j'ai tendance à mettre les moyens de transport rapide en premier ex aequo avec les chars qui ont résolu le problème de ce qu'on appelle la percée, comment percer le front ennemi. Et puis l'aviation, elle joue un rôle croissant qui est plein de promesses. Le bombardement stratégique à longue distance, il y a eu quelques tentatives. les Allemands ont bombardé Paris. Ils ont bombardé Londres. On a fait un ou deux bombardements en Allemagne. Enfin, ce n'était pas décisif. Absolument pas décisif. C'était 100 morts, c'était le bout du monde. Rien à voir, une fois de plus, avec la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Les combats au sol, ça a été plus important parce que ça, à mon avis, ça. Les combattants, ils se tairaient. Dès que les avions arrivaient, les combattants se tairaient. On prenait son réflexe normal. Et ça a été efficace de ce point de vue-là. Mais enfin, c'est le début, forcément. Il suffit de voir les caractéristiques des appareils pour comprendre d'ailleurs qu'il ne pouvait pas encore en être autrement. J'espère que ça a répondu, monsieur, à votre question.
Deuxième question.
Oui, je voudrais juste. J'ai juste une interrogation sur l'arrivée de Foch, qui a remplacé Pétain. Alors, est-ce que Pétain a été limogé?
Je peux préciser des choses. Pétain était commandant-chef de l'armée française, à partir de juin 17, des armées françaises. Et Foch devient, en mars 18, commandant-chef interallié. Il est à un autre niveau. Oui. Et Pétain reste commandant-chef français. Simplement, on a réalisé en mars 18, après ces offensives allemandes, qui avait écarté justement Français et Britanniques, et que la conséquence c'est que les Britanniques commençaient à regarder les ports pour effiler. Hein, bon, et les Français commençaient à aller vers Paris pour défendre Paris. Donc c'était, il suffirait de la carte, c'était le trou béant. Alors pour arriver à resserrer ce trou béant et à coordonner des armées qui étaient très mal coordonnées jusque-là, on a établi le commandement unique. Ça n'a pas été facile, parce que le commandement unique, personne n'en voulait. Enfin, les Français étaient pour, qu'ils avaient des forces importantes. Oui. Mais les Anglais n'étaient pas courts. Oui. Bon, donc il a fallu se mettre d'accord. On l'a fait difficilement, mais on l'a fait en mars 18, et on a confié ce commandement à Foch. Pourquoi à Foch et pas à Pétain? Très intéressant, parce que Pétain n'était pas prêt à concevoir une politique réellement interalliée. Et Pétain ne s'en cachait pas, d'ailleurs. Il disait, moi, commandant l'armée française, mon premier devoir, c'est de défendre Paris. C'est ça, ma priorité. Et ce n'est pas le langage qu'on pouvait tenir aux Anglais, vous comprenez. Puisque Foch était capable de s'élever à un niveau, disons, interallié. Et il a d'ailleurs été commandant en chef, même après la guerre. Il y a toujours eu un commandement en chef interallié, ce que on ne sait pas. Jean-Georges Lain, qui a été chef d'état-major SEMA ici, m'a montré un jour dans son bureau une plaque, de ces plaques qu'on se remet lors des visites officielles, qui lui avait été remise par, à l'époque, le général américain qui commandait SACEUR, vous savez, les forces alliées en Europe. Mmh. Et cette plaque, ça peut être un anniversaire quelconque de Foch, c'est un médaillon de Foch, avec The First SACEUR, le premier commandant en chef interallié. C'est vrai, Foch était le premier commandant en chef interallié, parce qu'il concevait cela. Et d'autre part, point très important, les Anglais le connaissaient depuis l'avant-guerre, parce que c'était lui qui avait négocié dès l'avant-guerre avec son homologue britannique, les général Wilson, les accords militaires secrets, hypothétiques, mais qui ont quand même existé entre Paris et Londres avant la guerre de 14, qui ensuite ont pu être transformés en accords efficaces. Donc, il était en quelque sorte l'inventeur de l'alliance militaire franco-britannique. Il avait une stratégie qui correspondait à cela, et il s'entendait mieux avec les Britanniques sur le plan humain, ça c'est... que Pétain marchait moins bien, donc le courant passait moins visiblement avec Pétain. Ça répond, monsieur, à votre question.
Et vous comprenez aussi pourquoi Georges-Henri Soutou a été professeur à l'école de guerre.
Oui, oui, écoutez, voilà. Ça, on continue à parler de la guerre de 14.
Absolument. C'est... D'ailleurs, dans votre réponse à notre ami, vous mentionniez le réflexe de Pétain. Moi, je suis là pour protéger Paris. Et en 1940, quand il arrive, Paris est déjà quasiment occupé par les Allemands. Et donc, effectivement, il en tire la conséquence.
Il y a une certaine... Il ne faudrait pas exagérer, oui, parce que certes, tout le monde... Mais il y a quand même... incontestablement, si vous prenez la vision de la guerre qu'a Foch en 1918, oui, et celle de Pétain, et si vous transposez en 1940, grosso modo, très brutalement, oui, entre De Gaulle d'un côté et, oui, Pétain de l'autre, vous avez quand même un certain parallélisme, c'est absolument incontestable. Et j'ai fait mon service militaire au cours des corps de l'école de guerre, figurez-vous.
Ouais.
En 1967-1969, comme agrégé, je n'étais pas officier, j'étais appelé, mais j'étais agrégé. Et l'armée, à l'époque, comme elle avait le service militaire, elle puisait des spécialistes dont elle avait besoin. Alors certains de mes camarades scientifiques allaient faire la bombe, si j'ose dire, dans les laboratoires de l'armée. Et moi, on m'avait dit, t'es historien, t'es agrégé, hop, cours d'histoire de l'école de guerre.
Ce qui était quand même très différent de t'es agrégé, t'es historien, cuisine.
C'était un gros problème. Je tiens à souligner quand même l'intelligence de notre établissement militaire, n'est-ce pas ? Bon, et un des officiers avait fait une conférence, a fait carrière par la suite, il est toujours resté en contact avec lui, avait fait une conférence sur justement Foch et Pétain. En 1917-18, avec des citations et une analyse, bien entendu militaire, stratégique, tactique, mais également une analyse psychologique en utilisant le vocabulaire. Alors c'est tout à fait fascinant. Ça, c'est là. Et on a vraiment deux types d'hommes profondément différents. Et pas seulement par les solutions qu'ils préconisent, mais par leur formation, leur personnalité même. C'est tout à fait passionnant, voilà, pour répondre à votre
remarque. Eh ben, je dois dire que nous avons passé plus d'une heure passionnante avec vous. Naturellement, Georges-Henri Soutou est maintenant à votre disposition pour signer son dernier livre, La Grande Illusion. Et je voudrais, en votre nom, vous remercier très très vivement, Georges-Henri, d'avoir passé cette matinée avec nous.
Merci. Moi qui vous remercie, François, de m'avoir invité.